Juste avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler du collectif des arts de la table. Alors l'art de la table, c'est vraiment une grande tendance dans notre univers déco, vous n'avez pas pu y échapper. Toutes ces jolies tables qu'on peut voir en photo, sur Instagram ou dans les magazines, qui nous inspirent, qu'on a envie de reproduire quand on reçoit, ou même au quotidien. Tous ces chefs et ces restaurants qui font attention autant au contenu qu'au contenant, et toute cette jolie vaisselle qu'on peut voir dans les boutiques, eh bien c'est tout ça que défend le collectif des arts de la table, qui a pour ambition donc de promouvoir et de valoriser la filière française des arts de la table. Grandes marques, créateurs indépendants, artisans et détaillants passionnés, ils sont tous unis d'une même voix pour faire rayonner leur savoir-faire et leurs produits, mais aussi pour vous inspirer. Tous les mois, le collectif des arts de la table vous propose une nouvelle tendance qui vous donne plein d'idées sur les matières, les couleurs et les formes du moment, et bien sûr une sélection de produits de marque française que vous pouvez donc retrouver sur leur site lesartsdelatable.fr ou sur leur compte Instagram @lesartsdelatable. Allez, place à l'épisode maintenant. Bienvenue dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis journaliste déco et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Ensemble, on peut parler savoir-faire, inspiration, tendance, actu, idées déco, envers du décor. Bref, on papote et on enregistre car ici, la déco, ça s'écoute. Si vous venez juste de découvrir cette émission, j'espère qu'elle vous plaira. Sachez qu'il y a déjà plus de 80 épisodes enregistrés avec de nombreuses personnalités passionnantes et plein d'autres formats aussi sur des thématiques bien précises. Pour suivre tout ça en photo, vous avez Instagram, bien sûr, @décodeur, et petite nouvelle, la newsletter. N'hésitez pas à vous abonner, à m'écrire, à partager, bref, à faire vivre ce podcast qui n'existerait pas sans votre fidélité. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, je suis en direct du salon Maison et Objets, installé dans un podcast booth qu'on m'a mis à disposition. Je suis avec Julie Sauvage, la fondatrice de Gabriel Paris. Bonjour Julie.
Bonjour.
Alors Gabriel Paris, c'est une très jolie marque de linge de maison qui a évolué ces derniers mois pour devenir, tu vas nous dire Julie, une marque de déco plus globale puisqu'elle propose désormais toute une ligne de mobilier, tapis, luminaires. Son style, je dirais intemporel et raffiné, avec cette petite touche pile dans l'air du temps et bien fabriquée, on y reviendra aussi. Par exemple, l'édredon, il existe en lin, mais il peut aussi avoir un petit motif léopard, que j'adorais. La table est en laque, mais on peut la choisir rouge et toute ronde. Et les coussins, il y a des coussins par exemple pour les enfants qui peuvent être à rayures bleues, mais aussi avec des petits froufrous jaunes. Bref, je ne vais pas vous faire la liste de tout ce que fait Gabriel Paris, mais je vais laisser Julie nous en parler. Alors Julie, c'est qui Gabriel?
Gabriel, c'était le prénom de ma grand-mère et c'est aussi un de mes prénoms puisque je m'appelle Julie Capucine Marie Gabriel. Quand j'ai cherché un nom pour mon projet, je voulais que ce soit quelque chose de personnel mais pas trop personnel. Donc voilà, ce prénom il m'est cher parce que j'adorais ma grand-mère. Elle était très élégante, c'était vraiment une femme moderne et dans l'air du temps. Donc ça correspondait à ce que j'avais envie de faire pour Gabrielle. Et en parallèle, je trouvais que ça faisait référence à des chouettes femmes comme Gabrielle Chanel, comme Colette s'appelait Gabrielle. Et en plus de ça, je trouvais que ça sonnait bien à l'étranger parce que Gabrielle,
ouais,
c'est trop cool. Et en plus de ça, excusez-moi, je suis fan de Johnny.
Ah oui, et la chanson Gabrielle.
Et la chanson de... Donc voilà, c'était le petit clin d'œil supplémentaire.
Excellent. Alors comment tu définirais ta marque et est-ce que c'est important pour toi d'avoir une identité pour se démarquer? Ce que je veux dire, c'est que là, on est au Salon Maison Objets, il y a plein de marques. Est-ce que c'est pas mal de marques de linge de maison, je veux dire? Est-ce que c'est le style, les matières, comment on fait pour se différencier?
En tout cas, dans ma manière de fonctionner, comment dire, avant j'étais chef de produit pendant de longues années, et c'est vrai que mon métier c'était de faire ce qu'allaient aimer mes clients. Aujourd'hui, je fonctionne d'une manière complètement différente. Aujourd'hui, je fais vraiment ce que j'aime. Bien sûr, je fais très attention à être différent de mes concurrents directs, c'est évident. Mais par contre, c'est vrai que ma démarche, elle est très spontanée. Je fais tout simplement ce que j'aime.
Comment tu décrirais quelqu'un qui voit pas, c'est quoi le style Gabriel?
Tu le disais, C'est un style intemporel et dans l'air du temps. C'est un style qui va évoluer dans la maison au fil du temps, au fil des envies. Nos pièces, elles sont conçues pour aller aussi bien dans un salon, dans une chambre. Il y a même des pièces comme le canapé qu'on a travaillé pour en indoor et en outdoor. Après, une de mes clientes qui a décrit un jour le style Gabrielle comme un style singulier et j'aime bien. C'est vrai que je trouve que j'aime beaucoup quand nos clients ils disent que vraiment notre style il est reconnaissable, qu'on reconnaît quand c'est du Gabrielle et ça me fait vraiment plaisir.
Tu as commencé par le linge de maison.
Tout à fait. Et en fait, l'idée c'était de vraiment travailler l'ensemble de la maison. D'ailleurs, quand je pensais au nom, j'avais hésité à l'appeler famille parce que c'est vrai que pour moi la famille c'est une grande source d'inspiration. Enfin, c'est mon socle et c'est le même pour plein d'autres gens. Et donc, l'idée, c'était vraiment de travailler du linge de maison pour l'ensemble des pièces de la maison, pour l'ensemble des personnes qui habitent dans cette maison. Donc, tout de suite, j'ai commencé en faisant du linge de lit, du linge de table, des coussins. Et tout de suite, j'ai lancé en même temps la petite collection enfant. En fait, au démarrage, dans mon business plan, j'avais mentionné que je voulais, enfin, que mon objectif, c'était de devenir un concept global de décoration. Et donc, naturellement, une fois que la gamme textile a été bien étoffée, et ben, naturellement, on a commencé à développer le mobilier, on a commencé par le salon, parce que c'est vrai que pendant les shootings qu'on travaillait, et ben, c'était vraiment la pièce qui nous manquait à chaque fois, parce que c'est vrai qu'on va pas s'acheter un canapé à chaque shooting, c'est un peu cher et encombrant. Donc on a commencé par travailler le canapé, ben, on développe au fur et à mesure de nos envies.
Et alors comment elle est née cette ligne de mobilier? Comment t'as dessiné? Comment ça s'est passé?
J'ai pigé beaucoup. Pigé.
Ça veut dire quoi, pigé?
J'ai beaucoup traîné sur Pinterest, dans les magazines, etc., etc., etc. Et l'idée, c'était effectivement, comme je te disais, nos produits, ils sont vraiment, on les travaille toujours pour que ce soit évolutif, qu'ils soient, comment dire, tous nos produits sont de très bonne qualité. Ils sont amenés à être vraiment durables. Et donc, l'idée, c'est vraiment que ils puissent évoluer dans la maison. On le sait très bien qu'un coussin qu'on a sous le nez depuis 3 ans, on a envie de le mettre ailleurs, au bout de ces 3 ans. Et c'est vrai que on voulait garder ce concept-là pour le mobilier. Et le point de départ, c'était aussi de faire de l'indoor à outdoor. Que le mobilier puisse, quand il fait beau, on a envie de le mettre dehors, on le met dehors. Si jamais c'était un canapé d'angle et que finalement on a envie d'en faire deux morceaux en face à face, qu'on puisse le faire. Donc c'était mon brief de départ. Comme je voulais faire de l'indoor à outdoor, forcément je suis partie sur un socle en bois. Et donc ce brief plus les piges m'ont un peu éclairé. Et donc j'ai pris un stagiaire, le scout, qui nous aidait à peindre les murs de notre bureau quand on avait des shootings, a commencé des études de graphiste, de designer d'objets à l'école Rubica à Valenciennes. Et donc, il a fait son premier stage chez nous. Et donc, en fait, il a vraiment concrétisé les idées que j'avais en tête. Donc, ça a été vraiment une première étape importante. Et ensuite, de fil en aiguille, de relation, j'ai été en contact avec un designer qui s'appelle Tony Grillo, qui est portugais. Qui a vraiment, pour le coup, vraiment redessiné l'ensemble, revu complètement le projet pour que ce soit vraiment techniquement possible, que ce soit vraiment, comme on le souhaitait, vraiment évolutif, pratique. Et donc, c'est comme ça qu'est sorti le premier canapé, les premières tables basses, le premier fauteuil. Et depuis, on travaille vraiment main dans la main avec Tony. Et c'est génial parce qu'en fait, grâce à Tony, on travaille avec des ateliers qui sont vraiment super. La même manière de fonctionner que la mienne et que celle des fournisseurs avec laquelle je travaille, c'est-à-dire que ils aiment vraiment leur boulot, ils aiment vraiment le produit et ils aiment vraiment le challenge. Donc rien ne les arrête. Et en fait, franchement, ça s'est fait assez facilement.
Ouais.
Là maintenant, ce qui est moins facile, c'est tout l'après, justement, par exemple le transport. Ça, c'est vraiment le challenge de 2024 parce que c'est vrai que les transporteurs sont pas très délicats de temps en temps. Et donc, ce sera vraiment le challenge 2024.
Et alors, comment tu peux changer ça? Parce que j'imagine qu'il y a plein de marques qui trouvent que les livraisons, etc., sont pas top. Comment toi, à ton niveau, tu peux changer ça?
Bah là, on travaille justement sur les emballages, sur peut-être démonter certaines pièces pour éviter, par exemple, que la table basse, le pied arrive un peu bancal parce que le carton est tombé par terre. Enfin, ce genre de choses. Après, je t'avoue que justement, je suis assez ouverte si quelqu'un a des solutions à me donner. On a vraiment un gros boulot par rapport à ça.
Ouais. La table, elle est assez brillante. C'est quoi ? C'est de la laque ? Comment elle est fabriquée ?
C'est de la laque avec 100% de brillance. Donc elle est fabriquée, c'est pulvérisé au pistolet. Et c'est vraiment le composant, hein, à la base. Que ce soit de la laque 10%, 20%, 100%, c'est fait de la même manière. Mais là, la spécificité de la nôtre, c'est qu'elle est effectivement dans une brillance 100% comme les pianos.
Ah oui, comme la matière des pianos.
C'est pour ça qu'on l'appelle laque piano.
Tout simplement.
Voilà.
À chaque, sur le textile, à chaque saison, tu crées un nouvel imprimé ?
Oui, tout à fait. En fait, pour dynamiser notre base d'essentiel, chaque saison, on sort une nouvelle collection. Et le point de départ, c'est effectivement toujours un imprimé qui donne un peu le ton, tu vois. Cet imprimé, il est décliné ensuite sur tous les accessoires, sur le homeware, sur le linge de lit, en petites touches. C'est-à-dire que, par exemple, on va pas faire toute la housse de couette, on va juste faire l'été d'oreiller et le bout de lit. L'idée, c'est effectivement de pas être too much. C'est vraiment la petite touche qui fait la différence. On conseille de la sortir plutôt avec des unis ou des rayures. Et oui, souvent, cet imprimé, c'est vraiment le point de départ de la collection.
Ouais, ce sont des très jolis imprimés à chaque fois. Comment tu les imagines? Comment tu travailles? Comment naît une collection?
En fait, je commence toujours par faire des moodboards. Je passe ma vie dans les magazines, Instagram, Pinterest, et puis je pige. Et puis à un moment donné, je le concrétise en moodboard, j'accroche sur mon mur. Et je travaille par un peu groupe coloriel. Par exemple, je vais voir 3-4 motifs et je voudrais un combo. J'envoie des inspirations à ma dessinatrice qui me suit depuis le début, qui s'appelle Charlotte Janvier. Et en fait, j'ai souvent une idée assez précise. Et elle est très, très, très patiente, Charlotte. Donc, en fait, sur la base de 2-3 piges, en disant, je voudrais ça comme ça, ça comme ci, mais avec ça. Et Charlotte, elle me fait plein de propositions. Enfin, elle me fait une proposition et puis on évolue ensemble. Et puis, une fois le dessin validé, on passe au travail de la couleur, qui, ça, est cadré par mes moodboards. Donc, voilà.
Et t'as deux collections par an. C'est rythmé par les saisons.
Clairement rythmé par maison et objet, plus que par les saisons.
C'est vrai.
Donc, on a deux collections par an, mais on sort aussi deux mini-collections. On sort la capsule plage au moment de avril-mai. Et on présente, on a aussi une capsule de Noël qu'on présente au mois d'octobre. Et en parallèle, on travaille aussi de temps en temps des collections en collaboration avec d'autres marques. On l'a déjà fait, par exemple, avec La Redoute, avec Balzac, avec... tartines et chocolat, on l'a déjà fait avec Hamstone. Et là, cette année, on va le faire avec Néné, une marque de lingerie et de maillot de bain. Et donc, on va faire une petite capsule
pour l'été.
Ça va être trop sympa.
Et comment on fait justement une marque comme toi ? J'imagine que tu as des bestes et en même temps, tu dois faire évoluer la marque. Alors, comment on équilibre ça ?
En vrai, ma démarche, elle est quand même très, très spontanée. En général, ce qui marche, c'est quand même ce qu'on aime. En fait, on garde des bestes quand ils sont intemporels ou semi-intemporels. Donc, par exemple, les rayures qu'on a lancées en même temps qu'une collection, si vraiment elles marchent très bien, on les laisse en collection jusqu'à ce qu'elles continuent de marcher. Les Vichy, par exemple, qu'on a lancés il y a 2 ans et qui sont devenus un peu iconiques de notre marque, pour le coup, là, on garde les meilleures couleurs et on réactualise les couleurs un peu plus tendances. Les imprimés, honnêtement, à part pour les foulards, et c'est sympa parce que ça nous sert de bibliothèque d'imprimés, on a plaisir à les remplacer. En fait, quand on les a vus une saison, j'ai plaisir à passer à autre chose.
Où est-ce qu'on trouve tes produits ?
On a un bon réseau de revendeurs qui est développé donc par mon associée Justine qui s'occupe justement de toute cette partie commerciale. Donc c'est vrai que maintenant ça fait 7 ans qu'on existe. Justine, elle m'a rejoint très rapidement dans l'aventure. Donc elle a pris vraiment son bâton de pèlerin au début pour aller à la rencontre de toutes les boutiques. Aujourd'hui, on a 220 points de vente en France et 150 environ à l'étranger. Donc on peut nous trouver quand même dans pas mal d'endroits. Et puis après, on a aussi notre site internet qui est et notre vitrine et sur plein de sites e-commerçants comme Smallables, Cool Republic. Enfin, on est aussi sur des plateformes comme La Redoute. Donc, on a à cœur de toujours avoir des revendeurs qui correspondent à notre image et à notre niveau de gamme. On a à cœur de pas ouvrir un revendeur à côté d'un autre revendeur qui est déjà partenaire. Voilà, l'idée, c'est vraiment de construire des partenariats avec...
Ouais, je me demandais comment ça se passe, par exemple, là, à Maison Objet, s'il y a une petite boutique qui vient de voir. Imagine, moi, j'ai une petite boutique, je ne sais où, à Orléans. Bon, elle t'inspire moyennement, t'aimes pas trop ce que je fais, ce que je propose. Tu peux dire non, je...
Alors, je pourrais, mais en général, si elle vient nous voir, c'est que... ça match. Et puis, en plus de ça, il y a quand même un minimum d'achat. Donc, si elle s'engage sur ce minimum d'achat, normalement, c'est que ça correspond avec le reste.
Ouais.
Pour le coup, par contre, si cette petite boutique elle vient nous voir et que dans la rue d'à côté il y a une autre boutique avec qui on travaille déjà, bah là pour le coup, on va lui dire non.
D'accord. Alors sur ça s'est confirmé encore cette année là tout à l'heure sur le stand, vous avez toujours des très jolis lits. On le voit aussi sur le compte Instagram. Comment on se crée un lit qui est instagrammable, tu sais, un lit douillet avec les dredons, les coussins, les machins, on ne sait pas toujours faire. Comment on fait? Mélange par exemple, on peut mélanger, toi tu dis les rayures, les imprimés, les couleurs.
Alors moi déjà pour avoir un beau lit, je trouve qu'il faut deux oreillers carrés et deux oreillers rectangles.
Non mais déjà c'est une bonne astuce, attends.
Ça c'est vraiment, je trouve que c'est la clé et si on peut la sortir avec un petit bout de lit, c'est chouette. En général, moi, ce que j'aime bien, c'est soit assortir mes têtes d'oreiller à mon bout de lit, soit assortir mes têtes d'oreiller à mon drap housse. Enfin, en tout cas, par exemple, si j'ai 4 têtes d'oreiller, je vais en assortir 2 à mon drap housse et 2 à ma housse de couette. Et si j'ai un surmatelas, j'en ai assorti 2 à ma housse de couette et 2 à mon surmatelas. Voilà, moi, j'aime bien le mix and match. Donc, j'adore mélanger les imprimés entre eux, les rayures, les unis. Donc, c'est vrai que je prends un peu...
Mais si on mélange les motifs, alors peut-être qu'il faut que ce soit dans un même camaïeu de couleurs.
Tout à fait. En fait, c'est vrai que nous, nos imprimés, enfin l'univers coloriel de Gabriel, il est quand même assez singulier, comme je disais tout à l'heure. J'aime bien ce mot. Donc en général, les imprimés, ils fonctionnent bien les uns avec les autres, en fait. Donc c'est vraiment la couleur qui fait le lien. Mais en fait, ce que j'aime vraiment, c'est aussi plutôt les associer avec des rayures ou des Vichy. Donc, en fait, honnêtement, il n'y a pas de règle. Et c'est vrai que c'est comme... on rigole toujours au bureau parce que les habitudes de linge de lit, par exemple, ceux qui aiment le coton, ceux qui aiment la gaze de coton, c'est comme les habitudes de pyjama, ceux qui dorment avec un t-shirt, ceux qui dorment en pyjama comme s'ils allaient à un mariage. C'est vraiment... ça dépend vraiment des personnes. Le linge de lit, c'est vraiment très, 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 très personnel.
Très personnel. Bah, transition...
Et en tout cas, j'ai oublié de dire, ce qui est hyper important, c'est que les coussins soit que ce soit de la plume ou ça peut être de la microfibre mais sensation d'UV. Quand les coussins sont, quand on achète du beau linge de lit et qu'on a des oreillers tout raplapla, bah forcément le lit il est beaucoup 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 moins beau. Alors pour le coup, moi je mets pour la petite astuce, je mets l'oreiller sur lequel je dors qui est un peu raplapla en dessous de ma couette, je mets ma couette et au-dessus j'ai mes oreillers.
J'allais dire, on a la même astuce. Moi aussi j'aime bien dormir très à plat, je peux pas parler de moi, mais on a envie de gonflant quand même, ouais. L'enveloppant sur le lit et donc il faut les mettre en présentation.
Ça par exemple, dans mes shoots photos, j'emmène toujours, toujours, toujours mes oreillers. Ça change un lit. La qualité de la couette et des oreillers, c'est primordial.
Et alors, tiens, une question me vient. Est-ce qu'il faut mettre un protège-oreiller? Tu sais, les trucs qu'on met sous la housse?
C'est toujours mieux, d'autant plus que l'oreiller il devient un petit peu sale au fur et à mesure et il se lave quand même pas facilement. Et donc, par exemple, quand on prend des teintes claires, forcément, le blanc, on va voir un peu à travers les taches. Donc oui, clairement, je le conseille.
Sur les matières, je crois que c'est 95% des collections sont réalisées à partir de matières naturelles. Ce sont des belles matières. Comment tu les choisis? D'où elles viennent, ces matières?
Alors en fait, moi, avant de créer Gabriel, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années chez Texdecor, qui est une entreprise qui regroupe plusieurs marques, dont Casamance, Camango, Casadeco, Missia. Et donc là, mon métier, c'était vraiment le tissu. Non, le textile, la qualité, la mise au point qualité que je vendais en fait au rouleau pour faire des rideaux, des canapés, etc. Donc ça, c'est vraiment... j'adore. C'est vraiment la partie que j'adore, de trouver des belles qualités.
Et tu les trouves où?
Et bah c'est assez facile maintenant parce qu'en fait j'ai un super réseau, donc je travaille en Inde, je travaille au Portugal, je travaille en Italie, en Belgique, et au fur et à mesure que Gabriel s'étoffe, bah je développe. C'est vrai qu'au début j'étais plus sur des qualités légères pour le linge de lit, maintenant on développe pas mal le coussinage, les canapés, donc maintenant je retrouve des fournisseurs d'avant et c'est trop chouette.
Vous communiquez beaucoup sur les certifications, c'est important aujourd'hui?
Bah oui, en fait on est une jeune entreprise, enfin je considère encore qu'on est des bébés.
Quand on est encore non, 7 ans,
ouais,
l'âge de raison.
Je sais, mais on est quand même encore une jeune entreprise. Moi, je trouve qu'on a encore plein de choses à améliorer et à faire. Et donc, en tout cas, il y a 7 ans, quand j'ai créé Gabriel, j'ai vraiment eu la possibilité, enfin, on est vraiment parti d'une page blanche. Donc, mon idée, c'était vraiment de faire les choses bien. Tout de suite, en fait. Donc, je suis tout de suite partie avec des fournisseurs, des ateliers en qui j'ai vraiment une super confiance, qui avaient des certifications, Smeta, GOTS, Cotex. Et donc, voilà, au début, je le faisais un peu de manière évidente. Et puis, en fait, au fur et à mesure du temps, de manière marketing, j'ai communiqué dessus, en fait.
Tu viens d'en parler, la certification Smeta pour les ateliers en Inde, c'est quoi?
La certification Smeta, c'est en fait, je sais pas si on dit certification, en tout cas c'est un audit qui est réalisé auprès des usines, enfin des ateliers avec lesquels je travaille en Inde, qui est très strict en termes environnementaux et en termes humains. Donc par exemple, les ateliers avec lesquels je travaille, il y a une crèche pour les enfants, il y a une cantine, il y a des règles très strictes par rapport aux heures supplémentaires. Mais bon, il y a plein d'autres certifications, comme la certification GOTS, qui certifie en fait la bonne façon, entre guillemets, de faire sur toute la chaîne de production. Donc, par exemple, le coton, il est bio, mais est-ce que il a été bien cultivé sans engrais? Est-ce que il a été bien récolté par des ouvriers qui ont été respectés? Enfin, toute la chaîne de production est vraiment checkée et contrôlée. Donc voilà, mais après c'est vrai qu'on travaille beaucoup aussi en prochain port, au Portugal, en Italie, en Belgique. Donc voilà, en fait on va vraiment chercher le savoir-faire là où il est. Donc voilà. Il y a un truc que j'aime bien aussi dire, c'est que quand je me suis lancée, en fait moi mon parc de fournisseurs, il était principalement indien, ils sont très 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 forts dans le linge de maison. Et au début, je voulais un peu me lancer en prochain port et travailler avec le Portugal. Et en fait, les minimums, ils étaient vraiment très importants. Et donc, j'ai contacté, avec l'autorisation de mes anciens boss, un fournisseur avec lequel j'avais vraiment des super relations, qui est indien. Et donc, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, voilà, je vais me lancer, je vais faire ci. Donc, je t'appelle, Raphaël et Flo sont au courant, ils sont OK si on travaille ensemble. Mais bon, voilà, je voudrais faire ci, ça, ça. Et en fait, tout de suite, il m'a dit, je sais plus le début de sa phrase, mais en tout cas à la fin c'était I will support you, je vais travailler avec toi, et voilà. Donc au début, en fait, c'est quelqu'un qui travaille avec des grosses entreprises. Il y a différents types d'ateliers, mais il peut travailler avec des Tommy Hilfiger, il peut travailler avec des gros clients américains, et c'est vraiment lui qui m'a donné ma chance, parce qu'au début j'ai commandé mes housses de couette, c'était par 6 pièces. Donc maintenant j'essaye de travailler de plus en plus avec le prochain port, mais lui, coûte que coûte, je continue de travailler avec lui maintenant que j'ai du volume, parce que c'est vrai que je garde en tête que c'est vraiment lui qui m'a donné ma chance.
D'accord, ok. Et vous avez beaucoup de produits en lin, je crois que ça a des avantages incroyables, le lin.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous en parler? En quoi c'est un textile éco-responsable?
Alors, c'est un textile qui est éco-responsable parce qu'il consomme pas d'eau. Seule la pluie lui suffit pour grandir. Il a d'autres vertus parce que il est thermorégulateur. C'est un tissu qui est très très agréable l'été parce qu'il est anti-transpirant et qui réchauffe l'hiver. Et il est hypoallergénique.
C'est-à-dire quoi, hypoallergénique?
C'est doux pour la peau et c'est anti-allergie, quoi.
Ouais.
Enfin, ça fait pas d'allergie.
Ouais. Et c'est peut-être aussi cultivé pas très loin. Je crois que le lin, ça peut pousser en France ou en Europe.
Alors oui, il est cultivé. D'ailleurs, le lin qu'on utilise, il est Master of Linen. Ça veut dire qu'effectivement, il provient soit du Nord, soit de Belgique, soit de Normandie. Après, nous, on a la particularité de confectionner nos produits en lin en Inde. Donc en fait, les fibres de lin, elles sont transportées par bateau en Inde. Pourquoi? Parce qu'on travaille avec des ateliers qui sont les premiers à avoir importé du lin en Inde pour ses vertus thermorégulatrices. Parce qu'effectivement, le lin est hyper agréable à porter pendant la saison chaude et des pluies en Inde.
Alors attends, question ultra pratique maintenant. Comment on entretient bien son linge? Est-ce qu'on le met au sèche-linge ou pas? Quelle est la technique? Enfin, même pas la technique, l'astuce.
Alors, en tout cas, on le lave régulièrement.
Oui. Oui.
Non, mais en tout cas, c'est la meilleure façon de le garder longtemps. On alterne aussi, par plaisir et par question de durabilité. C'est comme les chaussures, hein. Si on les met tous les jours, forcément, elles s'abîment. Si on les alterne, elles s'abîment moins.
Le linge s'abîme. On dort dans du par exemple dans des draps, la housse de couette, elle s'abîme.
Bah c'est surtout le lavage en fait. Si en fait le lavage est super important, s'il faut vraiment le laver avec les couleurs similaires en fait. Par exemple son blanc, si on le lave avec du blanc, bah il devient moins blanc forcément. Dans tous les cas, nous on utilise des fibres que de grande qualité, donc il est.
Et on lave à 30, à 40, on met au sèche-linge.
En fait, moi je lave à 30 parce que je considère que qu'à 30 c'est plus écolo et que ça suffit. Après, si les gens veulent le laver à 40, à 60, en tout cas, tout notre linge de maison, il a été testé en blanchisserie pour l'hôtellerie et il passe les tests. Donc on est vraiment sur de la top qualité. Après vraiment moi je pense que 30 degrés ça suffit. J'utilise pas de sèche-linge parce que c'est mon petit effort pour la planète. J'utilise plus de sèche-linge depuis 2 ans et c'est un vrai effort. Sauf quand je rentre de vacances ou que j'ai invité des amis et que donc j'ai beaucoup de linge. Mais sinon, de toute façon, en fait, le lin, c'est une fibre naturelle. Et donc, peut-être que quand il est posé sur le lit, il est un peu chiffonné, mais au bout de 1 ou 2 jours, il est plus chiffonné et ça va très bien. C'est comme, par exemple, les nappes. Moi, je conseille de dresser sa table le matin. Le soir, en fait, avec 2-3 fois, on passe un peu dessus. Et puis, en fait, les plis ont disparu.
Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a des nappes, des rideaux. Tu donnes une seconde vie aux chutes de tissus?
Oui, parce qu'en fait, on utilise tous les tissus. Toutes les chutes de tissus sont utilisées pour faire des pochons, pour les housses de couette, les nappes. Ça permet de valoriser le produit et ça permet aussi d'utiliser les chutes. Et ça permet aussi, pour les magasins, de pouvoir vendre les modèles d'expo. Parce que c'est vrai que c'est toujours désagréable d'avoir la housse de couette sans pochon qui est expo. Enfin, les clients, ils veulent toujours celle qui est en stock. Au moins, quand elle est dans un pochon, la question se pose pas. Avec les chutes, on va faire aussi les chouchous et on fait aussi des furoshiki pour les paquets cadeaux, etc.
Est-ce que c'est marrant que tu utilises le mot chouchou? J'allais te dire, est-ce que tu as un chouchou dans ta collection ou depuis 7 ans, un produit que tu vois, tu as adoré, qui est peut-être plus en vente aujourd'hui, que tu as adoré faire?
Tous les modèles que j'aime, ils sont encore en collection. Enfin, là, dernièrement, on a lancé un foulard en laine qui... Enfin, en tout cas, c'est mon chouchou du moment, qui a super bien marché. Et donc là, justement, là, on a lancé 2 nouvelles couleurs en last minute sur Maison Objet parce que il nous plaît et il a plu. Et là, le chouchou du moment, c'est surtout le mobilier. C'est vrai que c'est un super challenge. Enfin, ça me grise.
Ben justement, tu te vois où dans 10 ans, Gabriel Paris? Tu l'imagines comment?
Dans 10 ans, on aura agrandi la gamme de mobilier, j'espère. Et peut-être on se sera lancé dans le petit objet, par exemple. Et on aura une équipe qui travaille avec plaisir. Et on travaillera toujours avec plaisir.
Tu t'appelles Gabriel Paris, mais je crois que t'es pas complètement à Paris. Comment tu décrirais où est-ce que tu habites, sans nous dire ton adresse? Où est-ce que tu habites? Comment tu décrirais ton intérieur, ton style?
Mon style, il est celui de Gabriel. Pendant très longtemps, la maison, elle a servi d'endroit pour les shootings. Et là, justement, je suis en train de refaire tous les travaux. C'est justement en cours. Là, pendant Maison Objet, on me demande quel robinet de douche, je suis vraiment en plein dedans. Et donc, ce sera l'écrin, justement, de la prochaine collection.
Voilà. Et on avait fait une petite visite ensemble sur Instagram pendant le post-confinement, je crois, quand je faisais des visites chez des créateurs, créatrices, de tout. Tu m'avais gentiment ouvert les portes de ta maison et tu as ton bureau, c'est fascinant, qui est installé juste en face de ta maison avec ton équipe.
Mais donc, c'est pour ça qu'on fait des travaux, c'est qu'après le Covid, on a déménagé. Et donc maintenant, dans nos bureaux, qui nous servaient de bureaux, d'espace de shooting, même au début, la salle de bain de cette zone-là et la cave servaient d'espace de stockage. Donc là, maintenant, on a quand même grandi, on est plus nombreuses, donc là, il fallait quand même décloisonner tout ça, au contraire. Donc d'abord, on a externalisé la logistique. Ça nous a fait une grosse, grosse bouffée d'air. Et après, on a pris des bureaux juste à côté. Et donc, j'y vais en vélo. Enfin voilà, on est vraiment bien installés, les bureaux sont sympas et on est bien.
Et c'est agréable. Et vous êtes, je crois, tu en parlais tout à l'heure, deux associés.
Oui.
Vous avez créé en même temps la société ou toi tu l'as fondée et elle t'a rejoint après. Et quels sont vos rôles à l'une et l'autre?
Ouais, non. Donc j'ai créé Gabrielle et elle m'a rejoint, on va dire, j'ai travaillé pendant une petite année sur le projet. J'ai lancé en septembre 2016 et très rapidement, en fait, Justine est amie avec ma belle-sœur Chrysoline. Et donc, via Chrysoline, forcément, mon frère et ma belle-sœur ont fait de la pub de Gabrielle quand c'est sorti. Et puis elle était dans une démarche entrepreneuriale, elle avait envie de rentrer à Lille, elle était à Paris. Et elle m'a envoyé un mail trop sympa. Et vraiment, j'avais pas l'intention de m'associer. Mais d'un autre côté, son mail était super sympa. Et puis, on s'est rencontrés une fois, deux fois, trois fois. Et puis on a décidé, on essaye. Et en fait, elle est vraiment sur la partie commerciale. Et moi, je m'occupe plus du produit, des achats, de la communication et de la gestion d'entreprise.
Et qu'est-ce que tu préfères faire au quotidien? Et prépare-toi à ma question d'après. Qu'est-ce que tu aimes le moins?
Ouais. J'adore le produit, évidemment. Mais là, l'entreprise grandissant, je commence à bien aimer quand même. Au début, c'était vraiment le point noir, un peu la gestion. C'est vrai que c'est pas du tout, mes compétences de base. Mais là, l'équipe grandissant, j'adore faire grandir les équipes. Parce que c'est vrai que quand j'ai quitté Texecor, j'avais une équipe de 10 personnes et j'ai été seule. Après, j'étais avec Justine et une ou deux personnes pendant longtemps. Là, maintenant, je suis contente que l'équipe s'agrandisse. Je trouve ça vraiment sympa de partager. C'est très enrichissant. J'aime bien cette partie de management et j'aime bien justement cette partie que j'aimais moins avant, plus de stratégie, de gestion.
Et qu'est-ce que t'aimes le moins?
En vrai, franchement, évidemment, j'aime moins la paperasse, l'administratif. C'est vrai que je suis plus créative, donc c'est toujours un peu une galère pour moi de classer la facture A dans le dossier B. Ça, c'est moins ma tasse de thé. Mais en vrai, j'adore mon boulot. Pour moi, bosser, c'est vraiment un réel plaisir. Et il se mélange vraiment c'est pas du tout une contrainte. J'adore.
T'es pas stressée?
Je suis stressée au bout de 5 jours de maison objet quand j'ai trop de mails parce que je sais que tout se passe bien quand tout le monde a les réponses à ses questions ou que...
Oui, quand t'as une charge comme tout le monde de travail un peu plus importante.
Non, mais c'est aussi que j'ai pas envie de faire attendre les gens, tout ça. Et j'aime pas quand ma boîte... c'est vrai qu'avant j'avais une boîte mail remplie avec 2000, 3000 mails. Un jour, justement, j'ai vidé cette boîte mail et depuis, je veux vraiment tous les jours gérer mes mails. Et donc là, par exemple, ça me stresse de me dire, oulala, je me laisse déborder. Sinon, non, je suis pas stressée. Bon, après, c'est vrai que quand je démarre Maison Objet et qu'on se donne des objectifs chiffrés, parce que cette année, c'est vraiment, on a vraiment décidé que ce serait un challenge et qu'on allait vraiment être super performante. Donc, si, j'ai envie de réussir les objectifs, ça me stresse un petit peu. Quand il y a personne sur le stand, j'ai un petit peu la boule au ventre. Mais en dehors de ça, non, ça va.
Et qu'est-ce que tu fais pour te détendre?
Mon mantra, c'est doucement, nous sommes pressés. Quand je sens que je suis trop speed, je me pose, je m'assois et je respire. Et ça marche. Et sinon, pour me détendre, je vais marcher avec mes copines autour du lac. Je rentre à la maison, je profite de mes enfants, de mon mari. Je pars en vacances. J'ai pas vraiment. Je me ressource plus avec les autres que seule.
Ah oui.
Ouais.
Eh ben justement, si tu faisais un dîner, dernière question, si tu fais un dîner avec 6 personnes, qui seraient tes invités, des personnalités plus ou moins connues? T'as parlé de Johnny tout à l'heure. Est-ce qu'il va être au dîner?
Non, parce que malgré tout, j'adore ces chansons. J'adore parce qu'en fait, c'est toute une histoire familiale de concerts qu'on a. Enfin, c'est tout des souvenirs, c'est des fêtes familiales. Ça me rattache à mon enfance et c'est pour ça que j'adore. Après, je suis pas sûre que la converse avec lui soit la plus passionnante. Voilà. Je commencerai par Michelle Obama. Je trouve qu'elle a l'air trop sympa et que c'est pour moi une femme qui a réussi en tant que femme, en tant que, enfin, dans son métier, en tant que maman. C'est vrai qu'elle a été femme du président des États-Unis, mais pas que. Elle est vraiment engagée. Enfin, je trouve que c'est vraiment une chouette femme. J'inviterai Karl Lagerfeld. En fait, j'ai fait mon année de césure chez Chanel. Mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion de le croiser et j'ai trouvé que c'était toujours quelqu'un de très délicat, très gentil, très attentionné. Et je pense qu'il a dû avoir une vie, mais tellement passionnante. J'aurais adoré qu'il me raconte un peu des histoires. Voilà. J'inviterai aussi Omar Sy. Juste parce que je le trouve trop beau et tellement souriant. Il a l'air tellement sympa, tellement drôle. Vraiment, je pense que je passerai un super moment avec lui. J'inviterai Florence Foresti parce que je la trouve trop drôle et que les histoires, surtout son histoire de carte Pokémon, tu vois laquelle ou pas?
Non.
Non, mais alors vraiment, mais je me suis tellement reconnue dans certains de ses sketchs que vraiment.
C'est quoi déjà la carte Pokémon?
La carte Pokémon, c'est au début, elle arrive à l'école et puis toutes les mamans sont nickel et puis toi, t'es complètement, tu vois, t'es un peu pressée, ton enfant, au début, tu lui dis non, les cartes Pokémon, la maîtresse a dit non, tu les prends pas, et puis finalement, à la fin, l'enfant, il fait un peu sa crise et puis tu lui mets dans la poche. Bon, tu les sors pas. Hein. Enfin bon, c'est beaucoup mieux quand c'est Florence Foresti qui raconte.
Mais elle a un humour.
Elle me fait vraiment poêler, poêler. Ouais. Donc voilà, j'inviterai encore une fois. Je sais pas si elle viendrait, mais bon, j'inviterai aussi Charlotte Perriand parce que c'est vraiment un parcours de vie qui me passionne. C'est vraiment une femme qui a vraiment dans une époque où travailler pour une femme c'était pas si évident, être reconnue en tant que designer à cette époque c'était pas évident. Elle s'est vraiment épanouie dans son travail en tant que maman. Elle a été très amoureuse, donc. Non, vraiment, je trouve que c'est un chouette parcours de vie. Puis à la fin, j'hésite entre deux journalistes. J'adore Frédéric Lopez et j'adore voyager. Donc j'imagine qu'il a un nombre d'anecdotes. En plus de ça, j'adore l'émotion qui se dégage de ces émissions.
Interviews. Ah,
et
ouais.
Puis tout ce que... Là encore, j'ai vu un truc ce matin sur Instagram avec... où il fait une émission mardi, je sais pas comment ça s'appelle, mais les invités, ils ont l'air vraiment de parler à cœur ouvert.
Je crois que c'est le dimanche, non, ou c'est le mardi qui s'appelle Maison de Campagne.
C'est mardi.
Ça a changé de nom. Avant, ils venaient passer le week-end et ils sont trois et ils vont dans différentes pièces, ils passent la nuit et ils se confient sur plein de sujets.
Bah écoute, j'ai jamais vu en l'occurrence je connais voyage en terre inconnue, mais là justement ce matin sur Instagram, c'était effectivement ils étaient autour un salon et ils partageaient sur leur vie.
Trois personnalités d'univers différents
et il y avait
et qui
Gérard Jugnot, Adriana Carambeu et ça avait l'air poignant en fait.
Ouais.
Donc voilà. J'étais pas très bien réveillée, mais en tout cas, c'est ça qui m'a fait penser à lui. Et après, j'adore Stéphane Bern. Et en fait, ma grand-mère Gabrielle était fan de la royauté.
Qu'est-ce que tu aimes chez Stéphane Bern?
J'adore ses histoires, j'adore sa voix, j'adore son humour, j'adore son émission sur Europe 1. Et c'est vrai que j'adore parce qu'il est très point de vue image du monde. Et moi, ma grand-mère, elle adorait ça. J'ai vraiment souvenir d'avoir regardé le mariage de Diana. On était tous dans le canapé.
Le mariage de Diana ou le mariage de Kate?
Non, à l'époque, le mariage de Kate. Non.
Ah voilà, maintenant, parce que Diana, elle s'est mariée.
Alors non, c'est affreux, l'enterrement de Diana.
Ah c'est ça, parce que
c'est horrible.
Attends, Diana, je crois qu'elle s'est mariée l'année. Elle s'est pas mariée en 81, Diana?
Je sais.
Donc
plus.
Bon, ouais. Je pense que même, je sais pas quel âge tu as, mais
Non, mais c'était pas le mariage de Kate parce que elle était plus là. Mais donc ça devait être
l'enterrement de Diana.
C'est triste parce que c'est un moment triste et pour moi c'est pourtant un super souvenir d'enfance,
de famille.
Ouais. Ouais.
Ok, bon, c'est intéressant ton dîner, trop sympa. Bon, merci beaucoup Julie d'avoir répondu à mes petites questions dans cette petite cabine.
Merci à toi de m'avoir invitée.
Avec plaisir. Avec grand plaisir. Bon salon.
Merci beaucoup.
Ciao.
Au revoir.
Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier.
Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi la partager en l'envoyant à vos proches ou en story Insta. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur le compte Décodeur où je poste quasiment tous les jours. Et si jamais vous écoutez cette émission sur Apple Podcast et que vous avez 20 secondes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est juste sous la liste des épisodes. C'est comme partout, plus j'ai d'avis et d'étoiles, plus le podcast se détache et se fait connaître. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.